Bien sûr qu'il y a le totalitarisme, il y a aussi le fait d'être juif. Parce que quand vous êtes juif, même avant qu'il y ait le totalitarisme, si vous voulez, vous ne pouvez pas être, vous pouvez pas vous entendre vous-même comme une partie d'un grand tout, qui serait le tout de la nation. Bien sûr, vous êtes en France, par exemple, vous êtes français, vous êtes un juif français, mais en même temps, vous êtes juif. Vous êtes à la fois partie prenante, mais en même temps, vous êtes à part. L'être juif est un être vraiment mystérieux qui résiste à toute tentative de totalisation. Même, vous voyez, toute tentative de faire système pour essayer de tout penser, même au point de vue, je dirais, géopolitique, même au point de vue du droit international, même au point de vue... On sent bien qu'avec les Juifs, il y a un problème. Qu'est-ce que vous êtes ? Vous êtes une nation ? Non, vous n'êtes pas une nation. Vous êtes une religion ? Non, vous n'êtes pas une religion, parce que vous pouvez être juif alors même que vous ne pratiquez plus. Alors même que... voilà. Ou alors, vous pratiquez, mais vous n'êtes pas croyant. Ou alors vous êtes juif, vraiment, vous sentez juif, mais vous vous sentez aussi français. Et en même temps, français, sans... Et à chaque fois, ils sont du mauvais côté, vous avez remarqué dans l'histoire. Alors, quand le monde est nationaliste, les juifs sont accusés d'être cosmopolites. La grande période, d'ailleurs, d'Hitler. Aujourd'hui, qu'on est mondialiste, les juifs sont accusés d'être nationalistes. Quand on était hyper militarisé... et que la grande doctrine, c'était voilà, une armée pour être fort. Ah, on dit, ah ben les juifs, le problème des juifs, c'est qu'ils sont trop pacifistes, ils sont mous, etc. Vous voyez, prenez pas les armes. Vous savez, depuis Masada, pendant presque 2 millénaires, ils n'ont pas pris les armes, les juifs. À cause du désastre de Masada, dans ce qu'on pourrait appeler un complexe de Masada, où dans la lutte contre l'Empire romain, ça a fini, vous savez, avec des juifs qui se sont isolés dans cette forteresse de Masada et qui ont fini par se suicider. C'était un traumatisme énorme. On n'a plus pris d'armes jusqu'à ce grand penseur et écrivain juif, Vladimir Jabotinsky, qui va créer la Légion juive, qui va demander aux juifs de reprendre les armes, de se protéger même, parce que vous savez, quand il y avait des pogroms en Europe centrale, les juifs ne se défendaient pas. Donc, il leur a dit, non, il faut l'autodéfense. Il va distribuer des armes, il va leur... Et c'est lui qui va créer cette Légion juive qui, avec les Anglais, va libérer la Palestine de la domination turque, de l'occupation ottomane. Et puis après, il va y avoir tout un mouvement de libération sur place qui va aboutir à la création de l'État d'Israël. Je vous rappelle que la création de l'État d'Israël n'est pas due à une sorte de compassion à l'égard des pauvres juifs qui avaient subi la Shoah. Cette version-là, au contraire, la Shoah a failli empêcher la création de l'État d'Israël. Ce qui s'est passé, c'est qu'en Israël, les Juifs luttaient contre les Anglais et qu'à un moment donné, les Anglais, ils n'en pouvaient plus parce qu'ils avaient une telle guerre de sabotage, d'actes terroristes par des organisations comme l'Irgun, comme le groupe Stern, que vous voyez, ils ont dû à un moment lâcher, quoi, voilà, et accepter ce qui était la déclaration Balfour à l'origine de créer un foyer juif. Et d'ailleurs, je vous rappelle aussi, parce que c'est très important que vous compreniez ça, au moment de la création de l'État d'Israël, on ne parle absolument pas de ce qui à l'époque s'appelait l'Holocauste. C'est une honte pour les Juifs. À partir du moment où ils prennent un État et qu'immédiatement on leur déclare la guerre, le jour même de la création d'Israël, vous savez, l'État d'Israël, tout le monde autour d'eux leur déclare la guerre. Bon. Nasser, enfin l'Égypte, etc. Bon. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que le passé national, il va dire, c'est un passé, on va mettre en avant le passé de la guerre de libération, et donc plutôt, vous voyez, le passé guerrier. Parce qu'il y a une sorte de honte par rapport à l'Holocauste, que le rabbin Richard Rubinstein a désigné d'un terme terrible, il appelle cela le consentement des victimes. Pourquoi y a-t-il eu si peu de résistance ? Bien sûr, il y a eu la révolte de Treblinka, il y a eu la révolte du ghetto de Varsovie, mais ça reste quand même des actes assez isolés. Il y a eu très peu de résistance. Et donc, il y avait une honte. Et ça n'est que beaucoup plus tard, je pense au moment de la guerre des Six Jours, peut-être même dans les années 70 en tout cas, que tout d'un coup la mémoire de la Shoah va revenir en avant et que les Israéliens vont en faire un des points fondamentaux, vous voyez, de leur identité et de leur résistance. Mais ce n'est pas au début. Hein. Alors, vous voyez, qu'est-ce que c'est qu'être juif ? Être juif, le juif est insupportable, en fait, pour celui qui voudrait avoir une vision rationaliste de l'histoire. Il est toujours à part. Il empêche toute systématisation. Et les juifs eux-mêmes qui ont essayé de systématiser, comme Marx, dira en gros, bien au moment où il n'y aura plus de où il n'y aura plus de capitalisme, où on arrivera à une société sans classe, les juifs s'intégreront en gros à la société comme n'importe qui, vous voyez. C'était même le projet des révolutionnaires clermontonnaires qui dira « on donne tout aux juifs comme individus, mais on ne leur donne rien à eux comme peuple ou comme nation », vous voyez, parce qu'on ne veut pas qu'ils soient à part. Donc l'idée, c'est que voilà, la citoyenneté va intégrer les juifs de telle sorte que la judéité va disparaître. Marx dira d'ailleurs, dans ses réflexions sur la question juive, en gros, que l'identité juive est liée à des questions sociales et surtout est liée, ce qu'on retrouvera chez Sartre, à l'antisémitisme lui-même. C'est l'antisémitisme qui crée, on pourrait dire, l'identité juive. Bon, après, c'est presque ça. Mais sinon, les juifs sont l'homme, comme les autres. Ils appartiennent à l'homme générique, ils sont... membres d'une communauté nationale ou membres, si vous voulez, du monde internationalisé par le communisme. Vous voyez ? Mais ça ne marche pas. Ils sont juifs. Il y a une analogie, si vous voulez, entre le juif et le trisomique qui, de naissance, vous voyez, est, comment dire, à part. J'ai souvent fait cette analogie, hein. Et d'ailleurs, vous savez que ce n'est pas sans fondement, parce que un grand rabbin qu'on appelait Chazon Ish, vous connaissez sans doute cette histoire, à chaque fois qu'une personne trisomique passait devant lui, et lui c'était un grand maître du Talmud, un grand enseignant, à chaque fois qu'une personne trisomique passait devant lui, il se levait, et il faisait une inclination profonde. Alors, on lui disait, mais pourquoi est-ce que vous faites ça, Ravi ? Toujours devant des personnes trisomiques, personnes handicapées mentales, pourquoi devant eux, pas devant nous ? Enfin, nous, on est bien aussi. Enfin, maintenant, vous êtes le maître, c'est nous qui nous inclinons. Pourquoi devant ? Et alors, il disait ça, Chazon Ish, il disait, si Dieu ne leur a pas donné, comme à moi, les moyens d'étudier la Torah, c'est qu'ils étaient déjà plus avancés que moi dans le chemin de la sagesse. Ouais, c'est une phrase étonnante. Hein. Alors voilà, l'être juif est un être qui ne peut pas être intégré dans un tout. Donc, l'expérience du totalitarisme, mais aussi le simple fait d'être juif, amène une autre manière de penser qui n'est ni nationaliste, ni mondialiste, qui empêche de penser même une diversité dans une communion une, comme la pensée, je dirais, catholique, où toutes les nations, tribus, langues, peuples sont, d'une certaine façon, intégrées quand même dans la communauté catholique, dans la communion catholique. Non, il y a encore le truc à part. Et d'ailleurs, c'est catholique de le dire, puisque c'est ce que dit saint Paul. Il dit, saint Paul, dans Romains 11, il dit « ils ont été mis à part ». Donc, ça fait partie du mystère de l'Église que cette mise à part des Juifs, qui empêche toute possibilité d'avoir une pensée qui arrive à comprendre la totalité. Qui est un problème pour la philosophie politique, qui est un problème pour le droit international, qui est un problème pour la philosophie tout court. Donc, c'est à partir de là que nous pouvons essayer d'approcher l'entreprise d'Emmanuel Lévinas. Que j'ai appelé donc Emmanuel Lévinas après vous, parce que tout est là. L'enjeu quand on parle de Lévinas, c'est de parler toujours de l'autre. Et de cette manière de faire place à autrui. Donc c'est vous qui comptez dans ce cours, plus que Lévinas lui-même. Et le sous-titre que j'ai donné, c'est de l'érotique à l'éthique, c'est-à-dire qu'on va aborder une partie de la pensée de Lévinas, pas l'ensemble, une partie, à mon avis, assez substantielle, mais à partir de ce qui a été sa première pensée, hein, une pensée de l'éros d'abord, et qui est devenue une pensée de l'éthos, de l'éthique, comme philosophie première. Donc, Lévinas, jusqu'à l'époque plutôt de son grand livre qui s'appelle « Totalité infinie », après il va radicaliser certaines de ses thèses dans un livre qui s'appelle « Autrement qu'être » ou « Au-delà de l'essence ». Et c'est plutôt le Lévinas de « Totalité infinie » que nous allons aborder. Alors, pour introduire aussi à cela, je vous ai dit, il n'y a pas simplement le totalitarisme, il n'y a pas l'être juif comme à part, mais il y a aussi la manière dont les juifs eux-mêmes approchent la question de la vérité. La vérité, il me semble vous l'avoir déjà dit, chez les juifs, ne s'entend pas de la même manière que chez les grecs. Chez les grecs, la vérité est pensée comme dévoilement. Et même, on pourrait dire, dévoilement de l'être. Chez les juifs, et on pourrait dire dans le donné de la révélation biblique en général, la vérité est d'abord révélation de l'autre. D'ailleurs, si vous pensez la vérité comme dévoilement de l'être au sens de adéquation de l'intelligence avec le réel, vous connaissez cette définition de la vérité thomiste. Quand Jésus dit « Je suis la vérité », qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il ait un discours adéquat au réel ? Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ou qu'il est en adéquation avec l'être du Père ? Vous pouvez le voir dans l'autre sens. Oui, éventuellement, mais avant tout cela, qu'est-ce qu'il est ? Il est une personne divine, il est un visage. Il est celui qui nous sauve, bien sûr, mais que nous ne comprendrons jamais totalement parce qu'il reste une autre personne. Vous voyez ? Et la relation au Christ ne se fait pas simplement dans une sorte de simple lumière du dévoilement de l'être, mais comme l'événement d'une rencontre, et d'une rencontre qui nous engage, qui nous investit dans une responsabilité, dans une mission. Comment se fait-il dès lors, nous ne pensions pas la vérité autrement, à partir de cette parole qui dit « Je suis la vérité ». Vous voyez,